Donc Julie Royon, j'exerce au barreau de Saint-Étienne depuis 5 ans à présent. J'exerce principalement en droit des étrangers et par voie de conséquence en droit des mineurs isolés étrangers. Au sein de cet exposé, j'entends vous présenter ce que j'appelle le cheminement juridique lourd des mineurs isolés étrangers lorsqu'ils arrivent sur le territoire français. Cheminement juridique qui peut durer un an, deux ans, voire parfois plus. Je porterai mon attention plus particulièrement sur la situation existante au sein du département de la Loire, dans la mesure où la majeure partie des adolescents migrants que j'accompagne évolue au sein du département de la Loire. Alors, vous allez vous en rendre compte au fil de mes propos, le parcours juridique des mineurs isolés étrangers, la multiplicité des interlocuteurs administratifs et judiciaires qu'ils rencontrent, le nombre important de procédures parfois complexes qu'ils vont vivre, qu'ils vont subir, ainsi que le nombre de refus qui vont leur être opposés, les place dans une situation d'extrême vulnérabilité. Extrême vulnérabilité face à des procédures complexes auxquelles ils ne comprennent parfois strictement rien. Extrême vulnérabilité également dans la mesure où ces jeunes, à leur arrivant en France, ont simplement besoin, comme je le dis souvent, de poser leurs valises, de décompresser après un parcours d'exil bien souvent d'une violence inouïe. Alors, on rencontre, et je pense que tous les avocats qui travaillent auprès des mineurs isolés étrangers, l'ensemble des adolescents migrants qu'on rencontre sont fatigués. Fatigués de se battre, fatigués de se voir opposer une présomption de mensonge sur leurs propos, parfois prêts à baisser les bras. Et je pense que certains d'entre vous qui œuvrent au sein des associations solidaires ont déjà vu un certain nombre de jeunes parfois baisser les bras, décider de quitter la ville, de tenter leur chance dans un autre département, dans une autre ville, après s'être vu opposer un refus guichet, on va en parler, s'être vu opposer une décision négative de la part du juge des enfants, etc., etc. En tout état de cause, je pense que, et comme vous l'avez à très juste titre indiqué précédemment, le travail des avocats auprès des adolescents migrants est bien plus grand que le simple conseil juridique auprès de ces jeunes. Se voir accorder leur confiance, réussir à communiquer dans un contexte d'interculturalité qui, au demeurant, nous demande parfois de déconstruire un certain nombre de codes et de croyances que nous avons ancrés en nous depuis un certain nombre de temps, leur donner un espoir sur un dénouement judiciaire, tout ça, ça fait partie du travail de l'avocat qui travaille auprès des mineurs isolés étrangers. Je vais essayer dans ma présentation d'être brève, malgré l'immensité du propos que je souhaiterais vous proposer. Dans le cadre de ce cheminement juridique du mineur isolé sur le territoire, dès son arrivée sur le territoire, j'ai distingué quatre phases que je vais vous proposer, quatre phases qu'on peut présenter comme arrivant dans l'ordre chronologique. Sachant que, petite précision, ce que j'ai oublié d'indiquer, mais je pense que vous le savez d'ores et déjà, le nerf de la guerre dans le cadre de ces procédures judiciaires qui sont opposées aux mineurs isolés étrangers, c'est bien la question de la réalité de leur minorité, puisque en permanence, une présomption de majorité pèse au-dessus de leur tête, en permanence, une présomption de fausses déclarations, une présomption de faux documents qu'ils présentent, qu'ils ont sur eux, leur est opposée. Donc commençons peut-être avec la première étape de ce cheminement juridique que vivent les mineurs isolés en arrivant sur le territoire, ce que l'on appelle la demande de prise en charge au sein des conseils départementaux. Vous n'êtes pas sans le savoir, la compétence de prise en charge des mineurs isolés étrangers donc incombe au département, sauf situation quelque peu spécifique sur Lyon, puisque là c'est la MEOMI dans le cadre de la métropole. C'est-à-dire qu'au sein du département de la Loire, on a un service MNA, mineurs non accompagnés. Ce service a pour mission de recueillir et de mettre à l'abri immédiatement tout mineur isolé étranger qui se présente auprès de ces services, de le recueillir au sein dans un délai de maximum 5 jours, le temps de prendre le temps d'évaluer la situation de ce jeune, d'évaluer sa minorité et son isolement au moyen d'une approche pluridisciplinaire et globale. En l'espèce, au sein du département de la Loire et d'un certain nombre d'autres départements, tel n'est pas le cas. En pratique, le jeune qui se présente auprès du département est reçu généralement le jour même ou parfois le lendemain et est reçu au cours d'un entretien unique qui va durer, alors c'est relativement variable, entre 30 minutes et quelques heures. Cet entretien est mené par un interlocuteur unique, un travailleur social unique, donc on n'a pas d'approche pluridisciplinaire, comparative, qui, relativement subjectivement et au regard uniquement des déclarations, enfin des réponses du jeune apportées aux questions du travailleur social, puisqu'on a une grille d'évaluation, une trame d'évaluation qui est relativement précise, eh bien, subjectivement va évaluer la minorité de ce jeune. C'est-à-dire que là, et pour autant on regarde des conséquences juridiques importantes des conclusions de cet entretien d'évaluation, là on n'a pas de double degré d'évaluation. Le jeune n'a pas le temps de se reposer entre ses déclarations. On n'a pas de multiples interlocuteurs qui sont formés, et là je le dis très sincèrement, qui sont formés pluridisciplinairement et formés à la communication avec les adolescents migrants. Ici, on n'a pas d'analyse documentaire en transmettant les documents que le jeune a en sa possession à la PAF, à la police aux frontières par exemple. On n'a pas de saisine des autorités du pays d'origine, appeler le consulat, appeler l'ambassade pour vérifier les dires du gamin. Ici, non, on n'en a pas ça, le département de la Loire ne s'encombre pas, entre guillemets, de ces procédures, puisque le département de la Loire eh bien, ne met pas en œuvre une procédure d'évaluation qui dure 2, 3, 4, 5 jours et qui permettrait d'avoir une position globale sur la situation de ces mineurs isolés étrangers. Alors, outre cette procédure expéditive de détermination de l'âge, j'estime, et ça ressort systématiquement des propos qui me sont rapportés par les jeunes, j'estime que ces entretiens d'évaluation sont dénués de toute bienveillance envers les enfants. J'ai beaucoup de respect pour les travailleurs sociaux qui œuvrent auprès des mineurs isolés étrangers. En revanche, je pense qu'on a une grosse difficulté dans le cadre de ces entretiens d'évaluation de minorité et d'isolement. C'est ressorti des propos de mes collègues juste avant. Ces entretiens d'évaluation sont traumatisant pour les gamins. Ces entretiens d'évaluation sont dénués de la bienveillance nécessaire qui est censée primer dans le cadre de l'apaisement, de la protection de l'enfance. Tout ce que je vous indique, tout ce qui se passe au sein du département de la Loire et d'un certain nombre d'autres départements, eh bien, cela va en contradiction totale avec un certain nombre de textes et de recommandations des organes de défense des droits. Je vous donne un tout petit exemple, je vous inviterai à aller consulter des textes ou d'autres éléments par vous-même. Par exemple, le comité des droits de l'enfant. Le comité des droits de l'enfant eh bien, nous indique que le processus d'évaluation devrait être mené dans une atmosphère amicale, sûre, par des professionnels qualifiés, maîtrisant les techniques d'entretien adaptées au sexe et à l'âge de l'enfant. L'entretien ne doit pas se fonder uniquement sur l'apparence physique de l'enfant, et en cas d'incertitude persistante, le bénéfice du doute doit être accordé à l'intéressé, c'est-à-dire que ce n'est pas une présomption de majorité qui doit primer auprès de ces enfants, c'est une présomption de minorité. Tel n'est pas le cas en pratique. Autre déviance, alors au sein du département de la Loire, je n'ai pas forcément connaissance de ce qui se passe au sein des autres départements. Autre dysfonctionnement, lorsque les jeunes se voient opposer une décision de refus de prise en charge. Tout à l'heure, à midi, on a parlé d'entre 60 et 85% des jeunes qui se voient opposer la prise en charge, opposer un refus de prise en charge au titre de la protection de l'enfance. Les décisions de refus de prise en charge sont souvent notifiées oralement. C'est-à-dire qu'on n'a, pour certains jeunes, pas de document écrit, pas de décision écrite qui indique pourquoi est-ce qu'on estime que ce jeune n'est pas un mineur isolé étranger. Et par ailleurs, on n'a pas de décision écrite qui informe le jeune sur ses possibilités de recours, à savoir la saisine du juge des enfants. Alors, quand on en est là, et que ces jeunes eh bien, sont remis à la rue par les services du département avec un ticket de bus en poche. Un ticket de bus pour aller où eh bien, bien malin celui qui pourrait me le dire, mais un ticket de bus pour aller tenter sa chance ailleurs. Une fois que ces gamins sont à la rue, eh bien, s'ils ont la chance d'être assistés par une association, s'ils ont la chance d'avoir un contact avocat peut-être, vont tenter la saisine du juge des enfants. Et là, on passe à la deuxième étape du cheminement juridique de ces jeunes sur le territoire, après un refus guichet qui s'effectue dans des conditions relativement difficiles, le jeune peut tenter de saisir le juge des enfants. Alors, au moyen d'une lettre simple, le mineur isolé étranger va demander à être reçu par le juge des enfants afin que ce professionnel puisse, ce magistrat puisse lui-même évaluer sa minorité et son isolement, et donc opposer une obligation de prise en charge au département. Nouvelle embâcle au sein du parcours juridique de ces gamins, les délais d'audiencement, vous en avez parlé. Alors sur Paris, vous avez parlé de 6 à 8 mois, voire plus. Sur Saint-Étienne, on est sur 2-3 mois d'attente avant d'avoir une audience devant le juge des enfants. 2-3 mois d'attente quand on a entre 14 et 17 ans et que l'on se retrouve à la rue, c'est énorme. C'est énorme et à cet égard, je tiens vraiment à saluer le travail de toutes les associations stéphanoises qui ont mis en place un réseau de solidarité et d'hébergement pour ces gamins qui leur permettent eh bien, de ne pas se retrouver à la rue, de ne pas mal tourner médicalement ou autre en attendant l'audience devant le juge des enfants. Une fois la fameuse audience passée, alors bon, je ne vais pas vous embrouiller avec des questions de refus juge des enfants et d'appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon, surtout que sur Saint-Étienne, depuis quelque temps, ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis quelque temps, on a des décisions de prise en charge de la part du juge des enfants dans la majorité des cas, ce qui est une très bonne nouvelle pour les jeunes que nous accompagnons. Donc, une fois que le jeune a reconnu la minorité et l'isolement du mineur isolé étranger, une fois que ce jeune est pris en charge par le département, celui-ci doit être accompagné en termes de scolarisation, celui-ci va être placé au sein d'un foyer pour avoir une vie, somme toute, normale, la vie qui doit être celle d'un adolescent de son âge. Bon, je passe sur les délais d'attente pour obtenir une place en foyer, les mois passés dans un hôtel miteux avant d'avoir une place correcte, décente et digne au sein d'un foyer. Tout ça pour dire que la bataille des mineurs isolés ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que même après une décision judiciaire par laquelle le juge des enfants les a reconnus mineurs, les poursuites pénales sont, sur Saint-Étienne en tout cas, dans la plupart des cas, engagées. C'est-à-dire que le procureur de la République ouvre une enquête après le placement du jeune pour s'avérer de l'âge de ce dernier. Le juge des enfants se serait peut-être trompé, je ne sais pas, le jeune aurait menti, selon en tout cas notre procureur de la République qui diligente ces enquêtes. Donc troisième phase judiciaire qui fait le quotidien de ces jeunes, les poursuites pénales et la phase d'enquête. Et là, c'est relativement compliqué pour les gamins, parce qu'une fois encore, ils ont été placés, ils auraient bien aimé poser leurs valises et décompresser un petit peu. Et là, on est encore convoqués devant les officiers de police judiciaire, un certain nombre de fois. Et au cours de ces convocations, eh bien, c'est pas facile pour les jeunes. Une fois encore, on va devoir raconter son récit d'exil. Une fois encore, on va devoir raconter ses traumatismes. Une fois encore, on va devoir raconter comment on a obtenu nos documents d'identité. Une fois encore, on va devoir raconter l'absence de lien avec ses parents dans le pays d'origine. Et tout ça, eh bien, face à des officiers de police judiciaire qui ne sont eux non plus pas formés à la communication avec les adolescents migrants dans un contexte de l'exil. C'est-à-dire qu'on a des auditions de police qui sont extrêmement violentes pour ces gamins. Peut-être pour vous donner un seul exemple, celui d'une cliente, d'une jeune fille que j'accompagne depuis plus d'un an et demi, malheureusement pour elle maintenant. Au sein d'une audition de police, et afin très subjectivement de déterminer son âge, les officiers de police judiciaire de sexe masculin face à cette jeune fille lui ont demandé si elle avait déjà eu des relations sexuelles et si c'était le cas, à partir de quel âge elle avait commencé à avoir des relations sexuelles. Cette jeune fille avait fait l'objet d'un parcours d'exil extrêmement long, avait été violée à de nombreuses reprises et avait été victime de prostitution au sein de son parcours d'exil. Autant vous indiquer que l'entretien auprès des services de police, l'audition a été extrêmement violente pour cette jeune fille qui s'est mise à déclarer n'importe quoi auprès des officiers de police judiciaire, ce qui lui a ensuite été opposé devant le tribunal correctionnel. Pour vous donner un simple exemple. Au cours de cette enquête pénale également diligentée par le procureur, c'est à cet instant qu'interviennent ce que l'on appelle les examens osseux. Les fameux tests osseux qui, dans le département de la Loire, sont systématiquement proposés par le procureur de la République lorsqu'il y a une enquête pénale diligentée à l'encontre des mineurs isolés étrangers. Alors, malgré l'absence de fiabilité de ces examens osseux, malgré le coût exorbitant qu'ils représentent, pour vous donner une idée, on est entre 550 et 750 euros pour un examen médico-légal. Pour vous préciser également la situation sur Saint-Étienne, les médecins du CHU refusent de pratiquer les examens osseux. C'est pas fiable, ça entre en contradiction avec l'intérêt supérieur de l'enfant, la dignité de ces jeunes. C'est donc les praticiens privés de la clinique du parc de Saint-Priest-en-Jarret qui acceptent, eux, de faire une facture et de pratiquer ces examens médico-légaux. Il y a une petite action, en fait. Bon, il y a quelque chose, effectivement. Ouais. On a à tout le moins un sacré dysfonctionnement. Tout ça pour dire, s'agissant de... Il faut que je me dépêche. Très bien. Tout ça pour dire, s'agissant de ces examens osseux, que ceux-ci ne sont absolument pas fiables et que l'absence de fiabilité de ces tests osseux, comme on les appelle, est reconnue par l'ensemble de la communauté médicale ainsi que par l'ensemble de la communauté de défense des droits. Pour faire bref, les radiographies qui sont effectuées sur la personne des mineurs isolés étrangers, donc l'odontogramme, la mâchoire, les dents, la clavicule ainsi que le poignet, ces radiographies vont être comparées à des atlas de référence. Des atlas de référence relativement anciens, puisque le plus ancien auquel on les compare se trouve être un atlas de référence qui a été mis en place en 1935, il y a près d'un siècle, qui a été mis en place en 1935. Bon, alors des charges, après il a été complété en 1950, mise en place auprès d'une population blanche née aux États-Unis d'origine européenne et vivant dans des conditions de vie relativement stables, ce qui n'est absolument pas le cas de la majeure partie des adolescents migrants que nous accompagnons. Par ailleurs, notez que ces examens osseux ne prennent pas en compte ce que l'on appelle l'histoire culturelle et ethnique du mineur. Et les organes de défense des droits sont unanimes. Pour dire cela, l'histoire du gamin, son parcours d'exil, le fait qu'il ait été soumis à des tâches ménagères, à des violences, à la prostitution, etc., etc., tout ça va bien évidemment largement influencer son développement physique. Et tout cela, ce n'est pas pris en compte dans le cadre de ces examens osseux. Alors effectivement, dans plus de la moitié des cas, les gamins qui sont soumis à des examens osseux vont se voir opposer une conclusion qui leur donne un âge, j'ai presque terminé, qui leur donne un âge bien plus élevé que la réalité. Ce qui va malheureusement, puisque la politique du parquet à Saint-Étienne est la suivante, ce qui va malheureusement engendrer des conséquences, puisque un examen osseux qui propose une conclusion d'un âge majeur emporte une convocation devant le tribunal correctionnel. D'ailleurs, et à l'inverse, le jeune qui va refuser de se soumettre à un examen osseux, puisque c'est son droit, et le Conseil constitutionnel l'a rappelé dernièrement, également le jeune qui refuse de se soumettre à un examen osseux va également être convoqué devant le tribunal correctionnel, puisque s'il refuse de s'y soumettre, eh bien, selon le procureur, ça veut dire qu'il ment sur son âge. Autant vous dire que les mineurs isolés étrangers sont terrorisés par ces examens osseux, puisque qu'ils l'acceptent ou qu'ils le refusent, l'issue est dans la plupart des cas la même, une convocation devant le tribunal. Sauf que là, on n'est pas devant le tribunal pour enfants, on est devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire qu'on est devant un tribunal pour adultes, au cours d'une audience publique, et qu'on est considéré comme un majeur. Et cette procédure est dénuée de la bienveillance qui doit être celle de la protection de l'enfance. Donc on est vraiment dans des situations relativement difficiles pour ces jeunes-là. Petite précision pour finir sur les poursuites pénales. Depuis début 2019, avec les confrères Stéphano et qui nous travaillons en droit des mineurs isolés étrangers, on a enfin réussi à faire changer la politique du tribunal correctionnel la jurisprudence du tribunal correctionnel de Saint-Étienne. On obtient des décisions d'incompétence du tribunal. C'est-à-dire que le tribunal reconnaît expressément la minorité du gamin et donc s'estime incompétent à juger un enfant et non pas un adulte. Pour terminer, et deux mots sur le quatrième volet du cheminement juridique relativement lourd et difficile de ces mineurs isolés étrangers sur le territoire français, la question de la demande de titre de séjour, du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire qui est opposée aux jeunes qui sollicite le titre de séjour. Alors, on a un contentieux important. On a beaucoup de refus de titre de séjour pour des raisons diverses et variées. Je n'ai pas forcément le temps de vous les exposer. En revanche, ça a pour conséquence, eh bien, de, une fois encore, placer le jeune dans un nouveau cheminement juridique. C'est-à-dire qu'en un ou deux ans, le mineur isolé étranger va rencontrer pas moins de 3 juges différents. Le juge des enfants, le juge pénal, le tribunal administratif. Et au cours de toutes ces années, à aucun moment, la présomption de minorité qui devrait primer dans le cadre de sa situation n'a été mise en lumière. À aucun moment, un crédit a été apporté aux déclarations du jeune ou à ses documents d'identité, ce qui crée, bah, bien évidemment, et j'en reviens à ce que je disais au début, une situation d'extrême vulnérabilité face à des jeunes qui sont complètement dépassés face à ces procédures judiciaires. Je vous remercie.